Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média au menu. Vous le savez, tous les médias et toutes les formes de culture avec aujourd'hui du cinéma et de la pop. Trois films à voir ou à revoir et un groupe à découvrir. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu, mais aussi Bertrand Chameroy et son écran de veille. Puis Eva Rock pour son zapping du lendemain. Elle répond chaque jour à cette question. Quoi choisir ce soir à la télé? Notre infomédia, retour sur la crise des scénaristes. Et une fois n'est pas coutume, on va donner la parole aux producteurs avec Thomas Anargyros. C'est le président de Media One Studio. Puis nos invités, la journaliste Nathalie Saint-Cricq pour un nouveau numéro de Vous avez la parole, l'émission politique de France 2 qui revient demain soir en prime time. Et puis également un récit qu'elle vient de publier. Puis la violoncelliste Camille Thomas en passe de devenir une star mondiale. Elle est jeune, elle est belge. Elle est surtout la première femme violoncelliste signée par le prestigieux label Deutsche Grammophon. Elle présente Voice of Hope in Museums, projet artistique dans des musées confinés autour de son dernier album. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, pas confinés, Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à toutes et à
tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Nagui arrête l'un des jeux qu'il présente, le retour à l'antenne de la carte au trésor sur France 3 et puis une protection policière demandée pour la journaliste d'investigation récemment menacée en Bretagne.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir?
Alors, grosse soirée hier et c'est la stagiaire qui l'emporte comme depuis 4 semaines maintenant. C'était le final de la saison 6 et c'est le meilleur score de la saison, toujours à un très haut niveau, donc 4 650 000 téléspectateurs, 19% de part d'audience sur la moyenne des deux épisodes. C'est TF1 ensuite avec son film de science-fiction Le Labyrinthe qui avait déjà été diffusé en 2018, donc c'est un score forcément pas très, pas éblouissant, quoi. Ouais. 3 940 000 téléspectateurs, 16,6% de part d'audience. Puis c'est la suite de la saison 14 de Pékin Express qui se maintient très bien en nombre de téléspectateurs, hein, 2 610 000, à peu près comme la semaine dernière, c'est 100 000 de moins, et 11,4% de part d'audience, ça c'est un petit peu moins bon. Et juste pour vous donner le score quand même de France 2, Laissez-vous guider, c'est un magazine de Stéphane Bern et Laurent Deutsch qui n'est pas souvent à l'antenne, c'était sur Napoléon,
ah oui.
2 190 000 téléspectateurs, 9,8% de part d'audience, c'est à peu près, c'est moins que ce qu'ils font pour les précédentes émissions.
Voilà, je souris parce qu'il y avait beaucoup de d'informations Twitter là-dessus. On disait, est-ce qu'on va retrouver Pierre-Jean Chalençon au milieu de sa collection Napoléon?
Oui, voilà, Pierre-Jean Chalençon, c'est un grand connaisseur de Napoléon.
Grand collectionneur.
Culture Média.
Le journal des médias avec vous, Antoine, à la une, Nagui qui arrête l'un des jeux qu'il anime sur France 2.
Vous l'avez peut-être reconnu ce générique, tout le monde veut prendre sa place. Je diffusais juste avant le journal de 13h, Nagui ne le présentera plus à la rentrée après 15 années passées à l'animer. Une envie de changement, dit-il au parisien.fr ce matin. Autre raison, un désaccord de fond avec la coproductrice du jeu, Simone Harari. Un jeu qui, cela dit, va rester à l'antenne. Deux noms reviennent pour l'animer, ceux de Laurence Boccolini et de Cyril Ferraud.
Donc deux qui veulent prendre sa place. Nagui qui annonce par ailleurs l'arrivée d'un nouveau jeu sur France 2.
Oui, je ne l'avais pas fait exprès,
ouais.
N'annonce pas.
Mais moi j'y suis allé, c'était pas dans texte, je me suis lancé.
Voilà, ce nouveau jeu s'appelle le Club des Invincibles. L'idée est la suivante, que des champions de jeux télévisés affrontent des personnalités sur leur domaine de prédilection. Il sera diffusé en première partie de soirée d'ici le mois de juin, c'est ce qu'annonce Nagui.
Autre jeu qui arrive, et plus précisément, c'est la carte au trésor, ce soir sur France 3.
Un jeu qui sera animé par Cyril Ferraud, quelqu'un dont on parlait il y a quelques instants. Il en est aussi le directeur artistique. Un retour sans grand changement. On verra encore deux candidats tenter de résoudre des énigmes pour arriver jusqu'au trésor. Pas de nouvelles règles donc, mais de nouvelles consignes liées cette fois à la crise sanitaire.
Évidemment, on voit parfois dans la rue des gens avec des masques ou des gens dans les offices de tourisme par exemple, mais ça maintenant tout le monde en a l'habitude. Mais honnêtement, ça n'a absolument rien changé, si ce n'est que les candidats maintenant ont des perches qui leur permettent d'interviewer les passants en étant à distance réglementaire, en restant à bonne distance sanitaire. Et la seule chose qu'on a dû modifier dans la règle pour le respect des règles sanitaires, c'est qu'on interdit désormais aux candidats, par exemple, je vous dis une bêtise, de monter dans un camion poubelle et d'être collé au conducteur. Voilà, il faut forcément que le candidat monte à l'arrière de la voiture et en diagonale, de façon à être à suffisamment à une distance raisonnable de son conducteur.
Voilà, donc ce soir, pas de camion poubelle hein, dans le Pays Basque et le Béarn, des paysages majestueux, filmés notamment avec des hélicoptères. C'est avec ces appareils aussi que les candidats se déplacent d'une épreuve à l'autre. Absolument pas écologique, mais tellement emblématique de l'émission que Cyril Ferraud n'imagine pas faire sans.
Supprimer les hélicoptères, ça veut dire supprimer le jeu, puisque l'hélicoptère est le seul moyen de transport qui permette d'offrir des images aussi belles depuis les airs. On utilise les hélicoptères au minimum dans la carte trésor. Dès que les drones permettent de faire de belles images, on les utilise plutôt que l'hélico. Après, des hélicoptères, il y en a dans la carte trésor, il y en a dans le Tour de France pendant des mois. Toutes les émissions de patrimoine que vous voyez à la télé utilisent des hélicoptères, si ce n'est qu'ils ne les montrent pas. Et puis je vous rappelle que la carte trésor compense toutes les émissions carbone, non seulement des hélicoptères, mais on compense aussi tout le bilan carbone des véhicules de production, des éventuels avions qu'on peut prendre pour se rendre avec toute l'équipe sur les moyens de tournage. Et il y a très très peu d'émissions en France qui le font.
Voilà, Cyril Ferraud, la carte au trésor, de retour sur France 3, c'est ce soir à 21h05. Trois autres numéros inédits doivent être diffusés dans les semaines qui viennent. On vous emmènera en Anjou, en Vendée et dans l'Allier.
Donc, le retour de la carte au trésor est peut-être aussi celui bien plus surprenant d'une émission culte de Canal+.
Oui, c'est En aparté, émission des années 2000, où un invité, seul dans un appartement, dialoguait avec Pascal Clark, qu'on ne voyait pas à l'antenne. Elle s'est arrêtée en 2007, cette émission, faute d'audience satisfaisante. Mais près de 15 ans plus tard, elle pourrait donc renaître, c'est ce qu'affirme Télérama. C'est en tout cas l'une des pistes envisagées par Canal+, pour remplacer l'info du vrai à 19h la saison prochaine. Une piste sérieuse, d'après l'hebdomadaire. Cela dit, d'autres idées sont sur la table pour occuper cette case, diffuser un film, programmer une nouvelle émission sportive ou bien encore passer « Touche pas à mon poste » de C8 sur Canal.
Toujours dans l'actualité des médias, la fin d'une des plus anciennes séries de TF1.
Après Alice Nevers et Profilage, c'est au tour de Section de Recherche d'être bientôt arrêtée, près de 15 ans après avoir commencé, information de Satellifax. Les audiences sont pourtant bonnes. Ce qui est en cause, en fait, c'est la part de marché sur la cible commerciale, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Elles n'étaient que de 17,7% en moyenne lors de la dernière saison qui a pris fin le mois dernier. Insuffisant pour TF1 qui devrait quand même proposer une fin à cette série. On ne sait pas encore sous quelle forme.
Une série qui s'arrête et une autre qui continue.
Mais pas sur TF1, mais sur Netflix. La chronique des Bridgerton aura une saison 3 et une saison 4. La plateforme vient de les commander alors que la saison 2 n'a même pas encore été diffusée.
Ah, ça va plaire à Hélène Manarino.
Ça va lui plaire, elle nous écoute. On en parlait depuis quelques jours. Une plainte a été déposée par Reporters sans frontières.
Une plainte contre X pour entrave concertée à la liberté d'expression notamment. Cela fait suite à l'acte de sabotage dont a été victime la journaliste Morgane Large que nous recevions avant-hier. Les boulons de l'une des roues de sa voiture avaient été desserrés et pour certains enlevés fin mars chez elle en Bretagne. Par ailleurs, RSF a demandé une protection policière pour Morgane Large, qui a reçu aussi des menaces ces derniers mois à cause de ses enquêtes sur l'agro-industrie bretonne. Une demande assortie d'un numéro d'urgence que la journaliste pourrait composer en cas de danger imminent. Une demande très inhabituelle en France, selon Pauline Hadès-Mével, porte-parole de Reporters sans frontières.
Cette demande de protection policière en France est quelque chose qui est rare. La gravité des menaces a justifié en fait cette demande et la demande de numéro d'urgence. Nous estimons que compte tenu des pressions répétées, des intimidations exercées à l'endroit de la journaliste et de son média depuis plusieurs mois, c'était absolument nécessaire. Il faut qu'elle soit rassurée, il faut qu'elle puisse travailler. Et il faut surtout que le harcèlement et les actes de malveillance qu'elle a subis cessent. On peut rappeler notamment que son chien était intoxiqué, qu'elle a reçu des appels nocturnes à son domicile, qu'il y a eu une mise en divagation de ses animaux ou que les locaux de sa radio ont été dégradés.
La radio associative, je vous en rappelle le nom, Radio Crèze-Braise. RSF attend une réponse rapide de la part des autorités à qui elle a demandé que la protection, si elle est acceptée, ne soit pas assurée par la gendarmerie locale. Et ce, compte tenu des pressions et du climat tendu qui règne dans le centre Bretagne.
La Dépêche du Midi va reprendre des chaînes de télévision.
Oui, celle du groupe régional Via Occitanie qui avait été placée en redressement judiciaire fin janvier. L'offre de reprise formulée par le quotidien régional a été préférée à celle du groupe Altice BFM. Décision du tribunal de commerce de Nîmes avant-hier, la Dépêche du Midi s'est engagée à conserver 45 des 60 emplois.
Et on traverse la Manche. Au Royaume-Uni, la BBC fait face à un flot historique de plaintes.
Plus de 110 000 plaintes, record battu d'après le Guardian. La BBC est accusée d'en avoir trop fait, beaucoup trop fait à la mort du prince Philippe la semaine dernière. Deux de ses chaînes ont bouleversé leur programme pour proposer un hommage au mari de la reine. Résultat, pas de feuilleton sur la BBC Two et pas de finale de Masterchef sur la BBC One. Les audiences des deux chaînes ont d'ailleurs immédiatement chuté. Quelques plaintes aussi viser les habits des présentateurs qui auraient dû tous se vêtir de noir, selon une centaine de téléspectateurs. La BBC a répondu être fière de sa couverture de l'événement et du rôle joué pendant ces moments d'importance nationale, dit-elle. On attend de voir maintenant ce que le groupe fera pour les obsèques du prince Philippe. Elles sont prévues samedi.
Et toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres, évidemment, dans la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit. Inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup, Luce Bernard. Merci, Antoine Janton. On vous retrouve demain, tous les deux, pour un nouveau journal des médias et les audiences. À suivre, Culture Média continue, c'est l'info média du jour qui arrive. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vondel.
Ils sont l'un des rouages essentiels de la machine audiovisuelle. Les producteurs de fiction vivent une période particulièrement chargée en ce moment. Ils sont confrontés à la colère de certains scénaristes qui estiment être mal payés et mal considérés. Ils se préparent à une petite révolution, la contribution bientôt obligatoire des plateformes au financement des fictions françaises, une manne financière pour eux. Et puis, ils continuent à s'occuper de leurs films ou de leurs séries en cours d'écriture, de tournage. Quel programme ? Bonjour Thomas Anargyros.
Bonjour.
Vous êtes producteur, vous êtes le président de Media One Studio. À ce titre, c'est vous qui vous occupez des documentaires, des fictions et des coproductions internationales au sein du groupe Media One. Vous dirigez également l'USPA, le syndicat des producteurs de l'audiovisuel, fonction qui font de vous l'un des principaux interlocuteurs des chaînes et des plateformes. Alors avant de parler des sujets évoqués en introduction, quelques mots d'abord sur une mini-série que vous avez produite et qui a cartonné avant-hier soir sur TF1, Le Remplaçant, avec Joe Star. 6,5 millions de téléspectateurs pour les deux épisodes qui suivaient. Je sais que la question est difficile, mais à quoi vous attribuez ce succès ?
Je l'attribue évidemment d'abord à la qualité du programme, aussi au fait que Joestar est à la fois vraiment une vraie star en France, et on le découvre un peu plus à chaque fois qu'on peut le voir, mais aussi que c'est vraiment un très grand acteur. Et ce qu'il a fait comme travail d'acteur dans cette série, qu'il a en partie initié, il y tenait énormément. Et puis le dernier élément, c'est que même si ça traite de sujets difficiles, ça traite de sujets autour de l'école, autour de la paternité, cachée, des choses comme ça, il y a néanmoins quelque chose d'extrêmement feel-good, et en particulier dans le rôle qui est incarné par Joestar. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose dont le public a certainement besoin en ce moment. Et voilà, on est très heureux puisque TF1, évidemment, va continuer l'aventure avec,
ça va être ma question,
avec beaucoup de nouveaux épisodes.
C'était une micro-série, on ne savait pas, il y avait un test, il y avait deux épisodes.
C'était un pilote, en fait.
L'histoire était bouclée.
Ouais.
Combien, d'épisodes vont être commandés?
Ça va être une série qui, à mon avis, est partie pour durer. On avait déjà, TF1 croyait déjà beaucoup au potentiel de série du remplaçant. Donc, il avait commandé une deuxième soirée et la possibilité de continuer. Donc, a priori, on va la produire cet été, une soirée, et ensuite, très rapidement, trois soirées supplémentaires.
Est-ce qu'on peut dire que ce serait pour remplacer Section de Recherche, par exemple ?
Je ne crois pas que ça corresponde exactement, mais en tout cas, on est évidemment déçus que Section de Recherche, malgré ses très bons scores, mais très heureux d'avoir beaucoup de nouvelles séries comme Le Remplaçant, comme HPI sur TF1 qui arrive bientôt et qui aussi, ça a une certaine logique.
On va y venir, justement. Je vais rester sur Section de Recherche, qu'on l'a appris hier. Les audiences sont très bonnes, vous l'avez dit, près de 5 700 000 téléspectateurs en moyenne pour la 14e saison diffusée de janvier à mars dernier. Pourtant, TF1 a pris la décision d'arrêter cette série produite par vous. C'est pour ça que je faisais le lien, quand bien même était-il un peu artificiel. Pourquoi arrête-t-il cette série ?
De ce qu'ils nous disent, c'est réellement leur volonté de renouveler les séries qu'ils ont à l'antenne. Et j'ai envie de dire que cet argument-là, évidemment, on peut l'entendre.
Il y a aussi un autre argument. Il y a aussi la part de marché sur les FRDA, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, qui est moins de 17%, ce qui est peu pour TF1.
Ouais, mais
ce qui
n'est
pas dans les standards de TF1.
Je suis d'accord, mais alors dans ce cas-là, attendons de voir, puisque Léo Mattei, jeudi dernier, a fait 14% sur le public des FRDA.
Ouais.
Donc j'attends de voir si Léo Mattei va continuer ou s'arrêter, si c'est vraiment ça le critère. Moi, je peux entendre le critère qui est de dire on est arrivé au bout d'une aventure, et d'ailleurs on va la finir bien avec, j'espère, une ou plusieurs soirées pour boucler cette série qui a 15 ans. Et objectivement, c'est vrai qu'il n'y a quasiment plus aucun pays aujourd'hui dans le monde, à part des séries d'access ou des feuilletons quotidiens, qui peuvent durer sur de telles durées. En même temps, c'est vrai aujourd'hui, donc on est très heureux de remplacer avec de nouvelles séries, comme encore une fois HPI, comme Luther qui va arriver, comme Les Fugueuses qui vont arriver. Donc on a beaucoup de choses qui arrivent, entre autres pour TF1. Mais néanmoins, c'est vrai que alors que les scores ont été même plus élevés que l'année dernière sur Section de Recherche, je voudrais que soit appliquée pour Section de Recherche la même chose à toutes les séries un peu anciennes et qui sont très faibles en ménagère, en FRDA.
Vous avez d'autres noms en sus de Léo Mattei ?
Non, je ne les ai pas là sous la main. Je pense ça parce que effectivement, ils nous ont annoncé, comme si ça a été annoncé cette semaine, ils nous l'ont annoncé parce qu'ils sont néanmoins très, très corrects. Donc, ils nous ont prévenu la semaine dernière qu'ils comptaient arrêter section de recherche. Comme il se trouve qu'à peu près au même moment, j'ai vu que Léo Mattei faisait 14% sur le public FRDA, qui est celui sur lequel on serait un peu faible, mais largement au-dessus. J'attends de voir ce qui va se passer.
Ouais. Alors, ce qui compte, c'est de trouver de bonnes histoires, quel que soit le genre, et surtout la bonne manière de les raconter. Et ça, c'est le travail des scénaristes, c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et certains sont en colère, je ne vous apprends rien. Ils réclament, entre autres, davantage de reconnaissance. C'est le cas notamment de ceux qui ont écrit la première saison de la série En Thérapie, diffusée par Arte. Nous en avions parlé il y a 2 semaines avec Marie Roussin. Elle est la présidente de la Guilde française des scénaristes.
La colère des scénaristes d'En Thérapie, de la saison 1, c'était pas réellement parce qu'ils n'étaient pas considérés comme auteurs. C'est parce que les réalisateurs ont été mis en avant presque comme seuls auteurs de la série. C'est surtout ça. C'est-à-dire que
et les réalisateurs, c'est pas n'importe qui, c'est Nakache et Toledano.
Absolument,
qui ont fait Le Goût de la Fête, Intouchable et de grands films comme ça. C'était des
et
grands
qui ont fait un travail
cinéma.
Formidable sur En Thérapie. Le souci, c'est que le travail formidable avait été fait pas seulement par eux, mais aussi par les scénaristes qui, eux, pour le coup, sont passés, mais alors absolument à la trappe. Mais absolument, de façon absolument scandaleuse.
Alors je précise qu'En Thérapie n'est pas produit par Media One, mais pour reprendre ce terme, est-ce que vous trouvez scandaleux de ne pas mettre davantage en avant les scénaristes ?
Alors, tout ça est un sujet très complexe. La première chose, c'est qu'on sent bien en ce moment qu'il y a effectivement un malaise du côté des scénaristes. Et c'est quelque chose qui doit être entendu et qui doit être entendu par tout le monde, par les producteurs, par les réalisateurs, par les diffuseurs, par tout le monde. Ce malaise, il est notoirement là. En même temps, il doit aussi être mis en perspective avec le chemin qui a été parcouru ces dernières années, et en particulier en termes de rémunération et de comparaison avec les autres pays européens. En même temps, les scénaristes, c'est un acteur absolument majeur de la création. C'est le premier acteur avec lequel on travaille. Donc, c'est celui sur lequel tout repose. Je rappelle ce que disait Clouzot. Un film, c'est une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Ouais. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Donc, le sujet, il n'est pas là. Après,
alors, je vais vous dire la chose différemment. Vous citez Clouzot, je vais citer Jean Cocteau. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Les scénaristes eux-mêmes disent, c'est le cœur du film, c'est le scénario, et nous sommes quasiment les seuls à le dire. Et les producteurs, quand bien même le disent-ils, cette phrase-là n'est pas traduite en acte. C'est ça, le cœur du sujet.
Je ne suis pas d'accord là-dessus. Et effectivement, il faut qu'on mette un moment les choses sur la table pour se les dire. Maintenant, je pense que c'est important que je réponde juste d'un mot sur ce qui a été dit par Marie Roussin, qui est une très bonne scénariste. Alors, un des soucis, effectivement, des scénaristes, c'est un souci ancestral, j'ai envie de dire. C'est un souci d'invisibilité. C'est-à-dire qu'ils souffrent de ne pas être assez visibles. Et c'est exactement ce qui est dit par Marie Roussin dans l'extrait que vous avez passé. C'est un problème, je dis ancestral, parce que le cinéma français, on le sait, depuis les années 60-70, il s'est construit sur le modèle de l'auteur-réalisateur. Ouais. Et effectivement, comme c'était beaucoup des auteurs-réalisateurs, la place était le réalisateur, qui souvent était auteur aussi. En télévision, ça a en partie continué. Et même quand on est rentré dans une phase, alors comme vous le savez, ça a été pendant très longtemps la télévision française des unitaires. Et ces unitaires, du coup, c'est vrai que, comme dans le cinéma, c'était toujours le réalisateur qui était mis en avant. Alors, d'abord, aujourd'hui, les choses quand même changent considérablement. Quand on voit les phénomènes qui peuvent être créés autour de scénaristes comme Fanny Herrero et d'autres, on voit bien que dans le modèle des États-Unis et d'ailleurs, les scénaristes sont en train de prendre toute leur juste place. Concernant En Thérapie, ce que je trouve un petit peu compliqué, c'est que ces auteurs, je le rappelle simplement, En Thérapie, c'est une adaptation. C'est l'adaptation d'une série israélienne. Et à un moment, malgré tout, un auteur qui adapte une série qui a été entièrement écrite, quel que soit le travail qu'il fait dessus, n'est quand même pas le travail d'un créateur de série. Donc je veux juste dire que si les auteurs les auteurs français d'En Thérapie avaient créé cette série, ils auraient eu une place qui aurait été sans commune mesure.
Voilà. Et je le précise que vous en parlez avec d'autant plus de liberté car vous n'êtes pas les producteurs d'En Thérapie à Media One. Vous restez avec nous, Thomas Anargyros, Culture Média continue. On va continuer à parler de ce problème des scénaristes et aussi d'argent un tout petit peu quand même. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Thomas Anargyros, vous êtes producteur et vous êtes aussi le président de Media One Studio. On parle avec vous des scénaristes, de cette colère des scénaristes qui n'est pas récente. En 2014 déjà, ils se plaignaient d'être moins bien rémunérés que les scénaristes américains. Je vous cite un extrait d'un papier des Échos. C'était le 28 février 2014. Le journal économique écrit « Malgré une évolution à la hausse, un scénariste reçoit en France en moyenne entre 1,5 et 3% du budget d'un film, alors que cette part monte jusqu'à 10% aux États-Unis. » Ce sont des chiffres qu'on entend encore aujourd'hui. Les scénaristes voudraient des minima de cet ordre, 10% du budget d'un film. Vous êtes producteur, que leur répondez-vous ?
Je leur réponds qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les chiffres, comme toujours. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je ne veux pas faire de la polémique.
Alors celui-ci, il est bon, il est mauvais. Ouais, il est... 1,5 à 3 en France, 10% aux États-Unis. Sont des bons ou des mauvais?
Deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, dans le malaise des scénaristes, il y a beaucoup de choses qui reposent sur les pratiques du cinéma. Pas sur celles des séries télévisées où les choses sont excessivement encadrées et normées. Effectivement, en cinéma, et comme le disait d'ailleurs Marie Roussin aussi dans son émission, elle disait, mais sans préciser qu'il s'agissait du cinéma, pas de la télévision, il peut arriver effectivement qu'en cinéma, sur un contrat de scénariste, il y ait une partie qui soit payée au moment de l'écriture et une partie qui soit payée au moment où le film rentre en production. On sait qu'en cinéma, il y a beaucoup de films qui ne rentrent jamais en production.
Elle faisait la différence, hein, Marie Roussin, sur ce thème-là.
En télévision, c'est la quasi... Non seulement c'est la quasi-totalité des projets qui rentrent en production, mais surtout la totalité des montants d'écriture sont payés pas au travers d'un échéancier qui est réglé entre le producteur, l'agent du scénariste et le diffuseur pendant l'écriture.
Combien même la série ne se fait pas.
Exactement, 100%. La seule différence, comme vous le savez, en France, il y a le paiement initial qui est toute la rémunération du scénariste pour son travail. Et puis, il y a une deuxième rémunération qu'on appelle la gestion collective, c'est la SACD, qui, elle, lorsque les téléfilms, les séries sont diffusées, le scénariste touche à chaque diffusion.
D'accord. Touche combien, pardon ? Parce que la seule question sur lequel vous n'avez pas répondu, c'est 3% en France, 10% aux États-Unis. Vous contestez ce chiffre ?
Totalement. Alors là-dessus, j'ai deux choses à dire. La première, c'est qu'aujourd'hui, d'après les chiffres de la SACD, aujourd'hui, en France, ça représente à peu près 3,9-4% du montant du budget qui est alloué aux scénaristes. Je précise que dans un benchmark européen, qui est totalement disponible...
Benchmark, c'est une comparaison.
Comparaison, pardon, européenne. Nous sommes en France le pays qui rémunère le mieux les scénaristes. Ah, évidemment, il s'agit de moyenne. Hein. On peut toujours trouver des exemples. Et quant aux États-Unis, là, je parle d'expérience, puisqu'il se trouve que lorsque j'étais président d'EuropaCorp Télévision, on avait créé une filiale aux États-Unis et j'ai produit, moi, directement, la série Taken, qui était inspirée de la franchise, dans laquelle il y a eu 10 épisodes puis 16 épisodes en coproduction avec Universal pour NBC. Et je peux vous garantir que les montants d'écriture aux États-Unis sont entre 4 et 4,5%. Mais ce qui est d'ailleurs énorme, puisque là-bas, les budgets sont très importants. Mais c'est totalement là. Alors après, on peut trouver des exemples particuliers. On n'a pas le temps d'en parler maintenant. Évidemment qu'il y a sûrement des exemples particuliers à 10% sur des séries extrêmement low-cost aux États-Unis. Mais à un moment, si on veut se mettre d'accord sur des chiffres, il faut qu'on parle de moyenne et il faut qu'on parle de choses comparables.
On n'a pas le temps d'en parler maintenant, non pas parce qu'on voudrait éluder la question, mais parce qu'on a plein de sujets encore à vous soumettre. Thomas Anargyros, les séries, les fictions que vous produisez intéressent de plus en plus les plateformes étrangères, Netflix, Amazon, Apple TV, Disney+. Elles vont devoir en proposer de plus en plus en France, c'est la loi. Conséquence d'un décret qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain, le décret SMAD pour service des médias audiovisuels à la demande. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit tout simplement des plateformes américaines qui vont intégrer le système de l'exception culturelle française, on peut l'appeler comme ça, à travers lequel nous tous, scénaristes, acteurs, l'ensemble des techniciens, les producteurs, avons une chance effectivement assez extraordinaire, qui est un système dans lequel un pourcentage du chiffre d'affaires de ces plateformes, comme aujourd'hui des chaînes de télévision, doit être obligatoirement investi vers les œuvres patrimoniales, c'est-à-dire vers le cinéma, les séries, les documentaires, l'animation. Voilà.
Et ce n'est pas Epsilon, c'est 20%.
C'est 20%, c'est un chiffre qui est réellement très important, c'est une très bonne nouvelle et qui accompagne d'ailleurs, concernant les scénaristes, le fait qu'il y a une augmentation du volume considérable, plus 40% dans les 5 dernières années sans les plateformes. Donc de toute façon, Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et on discute déjà énormément sur beaucoup de sujets, sur les ateliers d'écriture qui sont l'équivalent des writing rooms des séries américaines. Il y a aujourd'hui, dans les 5 ans qui viennent, il va y avoir une augmentation du volume de production, des séries, de l'animation, des documentaires, du cinéma, qui va être importante. Tout ça est très compliqué parce qu'il y a en même temps une révision du décret des chaînes historiques en ce moment. Mais néanmoins, on a aujourd'hui cette chance-là. Donc mettons-nous autour d'une table, on le fait déjà, mais de façon un peu plus sereine. Ouais. Et encore une fois, comme je l'ai dit au début, ce malaise, on l'entend. Mais à un moment, il faut qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle.
Que va-t-il se passer? Il y aura des séries qui seront mieux rémunérées ou des séries ou des fictions où il y en aura davantage. Est-ce qu'il y aura un effet d'aubaine, comme le dit avec un peu de malice l'économiste du cinéma Alain Le Diberder?
Très grand et très grand économiste de l'audiovisuel et qui est très pertinent. Je pense qu'on va réellement apprendre en marchant. Il va y avoir beaucoup de choses différentes. Je pense que les plateformes vont explorer beaucoup de domaines et vont à la fois faire des séries comme Lupin, qui sont effectivement des séries qui vont être avec des budgets importants, avec des stars qui leur permettront à la fois de faire un succès en France, mais aussi dans le reste du monde. Mais elles vont faire aussi des séries qui seront sans doute beaucoup plus nationales. On voit bien d'ailleurs Netflix, dans sa dernière conférence de presse, dire quasiment qu'ils vont devenir le TF1 des plateformes, quelque chose de beaucoup plus mainstream. Alors ça va être évidemment différent de TF1, mais ce qui est complètement différent de ce qu'ils faisaient il y a un an ou deux. Donc c'est une période absolument extraordinaire et fascinante, dans laquelle on a quand même une très très grande chance, et dans laquelle on va aussi effectivement découvrir et apprendre en marchant.
Autre obligation, autre quota à venir pour les plateformes, cette fois c'est au niveau européen, proposer 30% d'œuvres européennes dans chacun des pays de l'Union. Elles vont donc avoir besoin très vite de contenus déjà diffusables. Autrement dit, elles vont devoir acheter des catalogues de contenus. C'est ce qu'a fait Netflix avec des producteurs scandinaves. Est-ce que les plateformes vous ont approché, vous, à MediaOne, pour acheter des contenus?
On a des discussions en vérité depuis évidemment déjà des années avec les différentes plateformes et nous travaillons là-dessus.
Maintenant, alors, je vais poser ma question différemment. Est-ce que les discussions ont changé? Est-ce que vos interlocuteurs disent il faut qu'on achète
non,
à tout
non,
prix?
Non. Aujourd'hui, en plus aujourd'hui en France, même si ce que vous dites est juste, aujourd'hui les plateformes françaises sont essentiellement concentrées sur ces nouvelles obligations qui sont uniques en Europe et unique dans le monde, hein, quasiment, et en tout cas à ce niveau-là, et donc vont se consacrer à la production d'œuvres françaises.
Dernière question rapidement. Anne Holmes, la directrice de la fiction nationale à France Télévisions, nous disait il y a quelques jours qu'elle travaillait sur un unitaire de 10%. 10%, c'est une série MediaOne. Où est-ce que vous en êtes de ce projet?
On avance très bien. L'idée est de qu'elle soit produite cette année pour une diffusion sans doute fin d'année ou début d'année prochaine, et d'embrayer avec une nouvelle série, une nouvelle saison de 10%.
Donc il y aura une saison 5 de 10%.
Absolument, après cet unitaire un peu événement.
C'est la première fois que vous le dites.
Ouais.
Merci de l'avoir dit ici. Merci de cette confidence à Culture Média, Thomas Anargyros. Je rappelle, vous êtes le président de MediaOne Studio. Et je le rappelle, donc plutôt jeune annonce, il y aura une saison 5 de 10%. On est ravis parce qu'on va recevoir demain Dominique Besnéard. Donc on lui en parlera également. Culture Média continue. Dans un instant, nous serons avec l'éditorialiste politique Nathalie Saint-Cricq pour parler de son tout nouveau roman « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». C'est destiné au dernier amour de Clémenceau. Mais surtout pour parler de « Vous avez la parole », l'émission politique de France 2 qui revient demain soir en direct en prime time. J'y arrive, à tout de suite.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vondel.
Bonjour Nathalie Saint-Cricq.
Bonjour.
Vous êtes journaliste politique, co-rédac chef de l'émission Vous avez la parole sur France 2, après avoir été la patronne du service politique de France 2, également co-présentatrice du débat présidentiel Macron-Le Pen avec Ça vous fait sourire?
Toujours oui.
Pourquoi?
Parce que co-présentatrice, je ne sais pas si c'est le terme exact, enfin j'étais là quoi.
Vous étiez là comme ça. Si les gens se disent mais qui est Nathalie Saint-Cricq, c'est la fille, c'est la personne qui était
à gauche et à droite et qui parlait peu pendant le débat Macron-Le Pen, exactement.
Votre actualité, bah justement, il est question de parole, c'est un nouveau numéro de Vous avez la parole, c'est demain soir à 21h sur France 2. Et aussi, autre actu, on en parlera à la fin de cet entretien, Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir, dernier amour de Clémenceau que vous racontez dans un récit. Mais d'abord, l'actu immédiate, Vous avez la parole donc demain soir, émission présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. Quel y est votre rôle?
Écoutez, mon rôle et notre rôle à tous, c'est d'essayer de convaincre des hommes politiques de bien vouloir débattre. Moi qui ai commencé il y a un certain temps, je peux vous dire que c'était absolument pas un problème. On pouvait faire un Strauss-Kahn Sarkozy, on pouvait monter tous les Allègre, Madelin. Ils étaient tous preneurs, ils étaient d'accord pour débattre, ça n'était pas un problème. Aujourd'hui, la spécificité de l'émission, enfin qu'on a choisi, c'est d'être la chaîne du débat, parce que les interviews, il y en a absolument partout. Et on s'est dit que ce qui était intéressant, ce qui intéressait les gens, c'était ce fameux débat. Et je peux vous dire que c'est assez compliqué, parce que chacun a son agenda. Chacun souhaite parler en septembre, en octobre, au mois d'avril, et préfère ne pas trop débattre maintenant. Mais là, on a réussi pour une deuxième fois, on a fait un Darmanin Le Pen, là, on fait un Jadot Le Maire, on a réussi à les convaincre. Donc mon but, c'est de rôder, de téléphoner et de leur faire admettre que le débat, c'est quelque chose de très sain pour la démocratie.
Vous avez répondu à la question qui allait suivre.
Je suis désolée.
Non, au contraire, c'est très bien, ça prouve qu'on est dans le bon sens. Yannick Jadot, votre premier choix. Donc on a compris que c'est votre premier choix parmi ceux qui ont accepté. Le grand débat, ça sera désormais, il sera face à Bruno Le Maire. J'ai posé la question différemment, parce que certains peuvent s'étonner qu'un ministre de l'économie passe après un candidat supposé à la présidentielle. Pourquoi ne pas avoir fait l'inverse, recevoir Bruno Le Maire en majesté, comme dit Léa Salamé, et organiser un débat avec lui et Yannick Jadot?
Alors, d'abord parce qu'on l'a déjà fait, avec Bruno Le Maire en majesté, comme vous dites. Ensuite, parce que depuis le début de la saison, on a eu Jean Castex, on a eu Olivier Véran, on a eu un certain nombre de ministres, et qu'à un moment donné, on a eu Gérald Darmanin, et à un moment donné, où il faut parler de la gauche, et qu'on s'est dit que c'était un bon calendrier pour la gauche. Un bon calendrier parce que Yannick Jadot organise dans quelques jours après l'émission une sorte de sommet pour essayer de réunir les socialistes, la France insoumise et les Verts, sans grand espoir,
Verts,
mais il
oui.
le fait quand même.
Parce qu'il y a Éric Piolle
absolument.
Dans la boucle.
Donc on s'est dit qu'il était, c'était exactement le moment. Anne Hidalgo, à qui nous avions proposé également l'émission, choisira, elle, nous dit plutôt septembre. Jean-Luc Mélenchon trouvait que c'était trop tôt. Donc on s'est dit qu'Yannick Jadot tombait très bien. Et voilà. Donc maintenant, la règle, ce n'est pas toujours le ministre en majesté et l'opposant qui vient sparring partner. C'est une émission où on fait tourner, en sachant très bien que, de toute façon, le débat, c'est le moment fort et qui dure 45 minutes et qui est une interview avant. Donc la majesté, finalement, elle est partagée par les deux invités.
Voilà, je reprenais le terme de Léa Salamé, justement.
Absolument.
Ça. Justement, après le fait que vous avez la parole, a souvent été remaniée, notamment au moment des Gilets jaunes. Il y a eu plein de formules différentes, plein de monde sur le plateau, puis moins, puis davantage. Quelle sera la formule de l'émission de ce soir? Interview, débat, quoi d'autre?
Écoutez, on va revenir à une formule assez simple, parce qu'effectivement, on a parfois un petit peu hésité, fait des choses qui n'étaient pas extrêmement lisibles, vous l'avez dit. Il y avait des gens, il n'y avait plus de gens, mais c'est aussi parce qu'on était en période Covid et qu'en gros, le Covid bouffait tout.
Et avant cela, il y avait la période Gilets jaunes.
Exactement.
Et on ne pouvait plus faire
donc,
des émissions télé politiques comme
avant. Effectivement, on
ne
pouvait pas faire des choses classiques. Donc là, on en reste plutôt à une formule assez simple, qui est un invité qui est dans l'actualité, interviewé un quart d'heure, 20 minutes, et derrière le temps fort, un débat qui est thématisé. Donc je pense qu'on va rester sur cette formule pour l'instant. Après, quand la présidentielle va s'approcher, c'est-à-dire à partir de septembre, on fera probablement des choses un petit peu plus complexes, mais pour l'instant, sur cette saison, c'est la formule. Et on verra à la rentrée.
Pas d'invité annexe, pas de cerise sur le gâteau, si
non,
je puis me permettre.
Non, les cerises, toutes vos cerises sur le gâteau, probablement.
Ce sont
celles de Muriel Pleney, qui s'occupera de l'émission à la rentrée. On verra, on fera forcément des petites formules, des petites choses pour rendre l'émission plus attractive. Mais pour l'instant, on est resté sur une chaîne de débat. Et puis on verra, le Covid sera peut-être terminé, on pourra peut-être enfin parler politique.
Je vous pose la question, parce que vous avez poussé un coup de gueule récemment, Nathalie Saint-Cricq, contre tous ces médecins qu'on voit sur les plateaux télé, je vous cite. Ils sont trop contents d'aller à la télé. Plus on dit des choses caricaturales, plus on est invité. Donc, ils ont tendance à en rajouter.
Alors, je ne visais pas tout le monde, j'en visais certains en particulier. J'ai trouvé effectivement qu'il y en a qui sont abonnés aux chaînes d'infos et qu'on voit extrêmement souvent. Et effectivement, si vous voulez pour faire... C'est un peu la même chose dans d'autres émissions. Plus vous avez une position caricaturale, plus vous êtes excessif, plus vous intéressez, parce que vous êtes un bon client, comme on dit. Et si vous dites, je ne sais pas très bien, les modélisations, on se demande... À ce moment-là, bah, vous cassez les pieds à tout le monde.
Et je voudrais même raconter quelque chose que je connais de mon expérience télé. Dans les émissions qui sont enregistrées, plus votre propos est caricatural, plus il est gardé au montage, plus vous êtes mesuré. Quand vous dites « je ne sais pas », c'est coupé.
Exactement.
Quand vous êtes mesuré, c'est coupé et il ne reste plus que l'écume.
Et oui, et comme ça, vous êtes réinvité. Et donc, si vous êtes réinvité, vous êtes content, parce que si vous êtes juste l'éloge de la nuance, de quelque chose d'un peu pondéré, et bien dans ce cas-là, vous n'intéressez plus personne.
Vous avez la parole, la suite, ça continue.
Bien sûr. Deuxième partie sur l'écologie.
Alors là, le dispositif, ce sera lequel? Parce que la dernière fois, il y avait des éditorialistes, de la presse régionale, de la presse nationale. Cette fois-ci, ce sera pareil?
Ça sera pareil. Il y a un certain nombre d'intellectuels, entre guillemets, si tant est que les journalistes n'en soient pas. Et il y aura également des journalistes. On fait un petit peu en fonction de l'actualité, on fait en fonction aussi de la crise sanitaire. La dernière fois, on avait des politiques qui étaient entre deux trucs de plexiglas, ce qui est un cauchemar absolu pour essayer de faire un débat. Là, il y aura un certain nombre d'invités comme Génie Bastier, comme Étienne Jernel, pour débattre autour de l'écologie et de savoir surtout si c'était à nouveau une espèce de forme de comment dire, la société que nous proposent les écologistes, c'est une société extrêmement contraignante, ou si ce sont simplement des gens qui s'inquiètent pour le climat, ou alors si c'est plus compliqué que ça. Donc ça risque d'être assez animé.
Étienne Jernel, le patron du Point, vous serez présente en plateau, Nathalie oui. Saint-Cricq. Oui. Et le ton est plus libre, moins corseté, dont vous avez la parole la suite, que dans la première émission.
Il n'y a pas de politique, donc il y a des gens d'abord, il est tard. Ouais. C'est forcément, on donne aux gens à partir de 22h30 quelque chose d'assez différent puisqu'on est plus tard, c'est plus une sorte de dialogue et de discussion entre gens un peu libres et puis il n'y a pas de politique, donc ça change le ton, c'est plus détendu et effectivement quelquefois on se permet de sourire plus facilement.
On se permet de sourire, je vous en parle, parce que dans l'émission du 4 juin dernier vous avez révélé ce que vous pensiez de l'appel téléphonique que l'humoriste Jean-Marie Bigard avait passé au président de la République Emmanuel Macron. Comme on dit, ça envoie du bois.
Là on va encore dire que ces journalistes qui sont insupportable, mais pour les journalistes qui ne peuvent pas avoir accès à lui, je veux dire, on va se mettre un nid de clown et on va faire le lâcher de salope et puis peut-être on pourra l'avoir au téléphone.
Des rires sur le plateau, ça a le mérite d'être franc. Vous l'avez eu au téléphone finalement?
Non, ça n'a rien changé. Je me suis demandé, ça m'est venu, on est en direct, je me suis dit, faut pas le dire, le lâcher de salope. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, zut, pourquoi je le dirais pas? C'est comme ça que je le pense. Mais voilà, il y a une liberté de ton à cette heure-là qui est plus grande. Et je pense que si à 20h, j'aurais jamais osé.
Comment ça se passe après l'émission? C'est la question que je vais vous poser, Nathalie Saint-Cricq, après une courte pause. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Nathalie Saint-Cricq, qu'on retrouvera demain dans l'émission politique. Après l'émission politique, vous avez la parole. Ce sera, vous avez la parole, la suite. Comment ça se passe après l'émission?
Écoutez, pour des raisons de Covid, ça se passe extrêmement rapidement. Ouais. On a le droit à rien. On peut reprendre son manteau et rentrer chez soi. Dans le temps, il y avait une espèce de petit, non pas de cocktail, parce que ça serait un bien grand mot, mais une espèce de pot pour éventuellement discuter avec les invités. Maintenant, on n'a plus le droit de rien faire. Donc, on rentre dormir.
Un pot pour faire la paix?
Non.
Je vous parle de ça parce que...
Alors, oui, ça dépend pour faire la paix ou pour commencer la guerre.
Voilà, puisque... c'était en décembre 2017, ça a été tendu avec Jean-Luc Mélenchon, il était passé dans l'émission et ensuite, après avoir fait l'émission, il avait écrit sur son blog un billet d'humeur dans lequel il qualifiait la rédaction politique de la chaîne publique que vous dirigez à l'époque de malsaine, de malhonnête, de malveillante, de menteuse. Vous l'avez pris comment?
Bah très mal, enfin très mal. Je veux dire, il n'y a pas de problème, il a le droit de penser absolument ce qu'il veut. En revanche, dire des contre-vérités, ça, ce n'est pas forcément souhaitable. Et ça s'était très mal passé aussi au fameux pot après. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il m'avait dit.
Ah, moi, je m'en souviens très bien. Puisque
je pense que c'est assez grossier.
Vous l'avez dit à TV Mag le 9 décembre 2017 ouais. Et je l'ai retrouvé. Vous racontez le récit après l'émission avec Jean-Luc Mélenchon. Je suis allé lui dire au revoir. Racontez-vous, Nathalie Saint-Cricq. Je lui dis que la question de la laïcité est un vrai sujet. J'avais à la main un livre de sa conseillère Sophia Chikirou, Ma France laïque, en soulignant que c'était vraiment important. Ce qu'elle y disait, il s'est énervé, il s'est retourné et il m'a dit d'aller me faire foutre.
Voilà, non, c'est à peu près ça. Donc j'ai... oui, j'ai trouvé ça très surprenant parce que je n'ai pas l'habitude d'aller copiner après les émissions. Mais là, j'ai juste été républicaine, comme on dit, ou comme il aurait dit, pour aller lui dire au revoir. Et effectivement, ça l'a énervé. Mais enfin, Jean-Luc Mélenchon, ça fait 25 ans qu'on a des relations qui sont extrêmement complexes. Donc voilà.
Et ensuite, il s'excuse ou la vie continue?
Non! Il ne s'excuse pas, il a des périodes où il aime bien les journalistes, en général avant les campagnes présidentielles, ou du moins c'est une sorte de paix armée. Moi, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien pour lui, je fais mon boulot, et je suis ni plus gentille, ni moins gentille avec lui qu'avec les autres. Simplement, il a toujours eu des... Mais c'est toujours comme ça. Ce n'est pas avec moi spécialement, c'est avec Patrick Cohen, qui est une de ses têtes de tour, Turc, qui a eu Bernard Guetta. Enfin, il a une liste de journalistes qu'il ne peut pas supporter.
Il aurait pu dire la même chose, parce qu'il y a MeToo qui est ici, il aurait pu dire la même chose à un homme.
Oui, je pense. Oui, honnêtement.
On va parler de chiffres et d'audience. Vous connaissez les audiences?
Les audiences de l'émission politique ?
Oui.
Oui, elles sont très fluctuantes. Elles sont un peu dégradées depuis quelque temps, c'est-à-dire qu'on a du mal à atteindre les 2 millions. Je pense que le Covid est en partie responsable de ça. C'est-à-dire que parler du Covid, ça fatigue les gens, mais ne pas en parler, ça leur semble être totalement bizarre. Il y a probablement aussi des erreurs qui ont été faites de notre part, c'est-à-dire des émissions qui pouvaient sembler un peu confuses, un peu trop de monde, un peu de choses qui n'étaient pas très lisibles.
Les émissions au moment des Gilets jaunes, où il y avait une quinzaine d'intervenants, c'était très difficile à
Absolument,
suivre.
Absolument, mais celles-là étaient des émissions qui marchaient plus tôt, et puis après, je vous dis, on a fait les frais de l'actualité médicale, si je puis me permettre. Faire une émission avec Olivier Véran, on l'a faite. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a boycotté, celle-là. Oui. On essaie de trouver... Ouais, on essaie de trouver une formule pour intéresser, mais je pense que par rapport à la grande époque de la politique, c'est devenu plus compliqué parce que je pense que les gens en ce moment ont un peu la tête ailleurs.
Puisque vous parlez de formule, j'aimerais bien avoir votre avis sur les nouvelles initiatives qu'on voit fleurir, notamment sur Twitch par exemple, qui est la plateforme consacrée à la base aux jeux vidéo, notamment l'émission de Samuel Etienne qui marche tellement bien que se sont déjà invités dans son émission le Premier ministre Jean Castex et l'ancien président de la République François Hollande. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'il vous pique votre boulot ? Ou est-ce que vous voyez ça comme un gadget comme le pensent certains ?
Non, alors, tout ce qui peut intéresser d'autres catégories de public est bon à prendre. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans le genre « Ah là là, il n'y a que la télévision, tout le reste, c'est ringard ». Au contraire, je trouve ça très très bien. Ça attire les jeunes, peut-être, ça attire d'autres publics. Et je pense que la politique, ce n'est pas le monopole d'un certain nombre de personnes plus ou moins âgées qui devraient la pratiquer ou la montrer aux gens d'une certaine façon. La seule chose que je déplore, moi, à titre personnel sur Twitch, parce que j'ai regardé l'autre jour avec Jean Castex, c'est l'espèce de rapidité. Avec tout ce qui déroule, tout ce qui se passe sur les côtés, on voit des questions. On n'a même pas le temps de
les... questions des internautes.
Mais, j'ai bien... oui, mais attendez, au bout d'un moment, s'il y en a 74 qui passent à la seconde, c'est juste un truc de confusion mentale. Ouais. Et c'est très bien, au finish, quand il y a les questions de Samuel Etienne, on a des réponses, mais finalement, les questions sont des questions qui pourraient être posées par n'importe qui. Enfin, ce n'est pas du tout désagréable, mais ça reste une émission classique qui n'a pas l'air d'être classique. Et je déplore aussi, parce que imaginons qu'un jour on ait à traiter des sujets sérieux comme la fin de vie ou l'euthanasie, je ne pense pas que ce soit sur ce genre de choses où il y a une espèce de brouillage permanent avec toutes les questions qui défilent, qu'on puisse le faire. Donc oui, c'est bien si ça attire d'autres gens, mais il ne faut pas quand même imaginer qu'on va réinventer totalement les émissions politiques sur Twitch. Il faut faire... Il faut combiner tous les styles de manière à pouvoir essayer d'attirer le plus grand nombre de gens.
Émission semi-classique, semi-nouvelle. Quid des invités qui préfèrent aller chez Cyril Hanouna dans l'émission Tout balance ton poste ? Vous leur dites,
mais
vous
c'est leur dites droit. Quoi ? C'est leur droit, absolu. Rien n'est... Je n'ai pas du tout à apporter de jugement en disant c'est bien, c'est mal. Ça fait longtemps qu'on a eu le débat quand les politiques ont commencé à aller chez Thierry Ardisson. Donc c'est une vieille histoire. Mmh.
Vous avez quand même un point de vue. Parce que quand vous parlez à un homme politique qui dit non, je ne fais pas votre émission parce que je préfère aller chez Cyril Hanouna, vous avez des arguments. J'imagine, pour essayer de le convaincre.
Pas vraiment, je leur dis, c'est leur problème. Mais en général, ceux qui vont chez Hanouna acceptent d'aller aussi ailleurs. Donc c'est, en plus, c'est pas exclusivement chez Hanouna. Moi, ce qui me perturbe le plus, c'est ceux qui ne veulent pas débattre. Parce que ça, si vous voulez, ceux qui préfèrent le confort d'une interview avec un journaliste, cela, je ne comprends pas. Mais peut-être aussi parce que, je vous dis, pendant 10 ans, on a réussi à monter des débats avec Chabot, avec Pujadas, et que maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus difficile et qu'il y a beaucoup de gens qui se planquent un peu.
Qui refuse de débattre, par exemple ?
Mais c'est un problème d'opportunité. Ils choisissent les gens avec lesquels ils veulent débattre. Jean-Luc Mélenchon, c'est difficile. Pour l'instant, Anne Hidalgo, je ne sais pas si on pourra le faire. C'est pas toujours facile à monter.
Donc, vos prochains invités, j'allais vous poser la question, vous ne les connaissez pas ?
Ah non ! Non, non, on cherche.
Voilà. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a peu de renouvellement. Vous avez vu le sondage du JDD, évidemment, je ne vais pas vous demander de le commenter, mais que dans tous les cas de figure, on annonce un second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron.
Effectivement. Alors même si on annonce aussi que les Français choisissent toujours quelque chose de différent et qu'un an avant l'élection, on ne peut pas savoir ce qui va se produire. Donc nous, on regarde, on a plein de projets à la rentrée avec Xavier Bertrand, Anne Hidalgo, enfin plein de choses. On va voir.
Il ne sera pas là pour débattre, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Clémenceau, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. C'est votre récit, vous racontez son dernier amour, ses derniers combats. Pourquoi cette histoire ? Pourquoi elle vous a intéressé ?
Parce qu'elle m'a changé de ma vie quotidienne.
C'est pas vrai.
Mais oui, parce qu'après vous avoir dit tout ce que je vous ai dit, j'ai eu besoin probablement de travailler sur quelqu'un qui était extrêmement drôle, extrêmement courageux, extrêmement avec des débats à l'Assemblée qui étaient absolument passionnants. Et puis il y a une histoire de base, c'est cette histoire d'amour entre un homme de 82 ans et une femme de 40 ans. tout ça est enflammé. Il y a tout ce que j'aime, la politique, du sentiment, peu de sexe.
Ouais.
Mais
et de la misogynie.
Et bon, la misogynie, c'est quelque chose de consubstantiel à l'époque et de consubstantiel à Clémenceau. C'est vrai qu'il est misogyne et à côté de ça, il est anticolonialiste, contre la peine de mort. Donc ça, c'est effectivement le maillon faible, c'est son rapport avec les femmes. Et mais il l'aime quand même et il lui écrit des lettres magnifiques. Ouais. Ça le rattrape un peu.
Elles y sont. Et il a toujours refusé le droit de vote aux femmes, par exemple.
Parce qu'il pensait qu'elles voteraient comme leurs confesseurs ou comme les curés et qu'il était laïque, à fond laïque, et qu'il considérait que les confesseurs étaient de droite.
Merci beaucoup Nathalie Saint-Cric. Je rappelle le nouveau numéro de Vous avez la parole, c'est demain soir à 21h sur France 2. Et donc, ce récit, Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Très beau titre, c'est une phrase de Clémenceau. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média continue évidemment. Il y aura le rappel des titres de 10h. Christophe Lamarre est déjà là. Il y aura Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un très beau doc sur le chanteur Christophe. Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial Drive. Je ne sais pas ce que c'est. Notre invité, c'est un phénomène, la violoncelliste franco-belge Camille Thomas. Seulement 33 ans, déjà une star mondiale, la seule violoncelliste signée sur le label Deutsche Grammophon. Et puis dans les indispensables des films à regarder en famille et du blues rock créole. Mais quel programme Culture Média continue. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.